César Beccaria, Des délits et des peines. Chapitre 9. Des accusations secrètes. Les accusations secrètes sont un abus manifeste, mais consacré, et devenu nécessaire dans plusieurs gouvernements par la faiblesse de leur constitution. Un tel usage rend les hommes faux et perfides. Celui qui soupçonne un délateur dans son concitoyen y voit aussitôt un ennemi. On s'accoutume alors à masquer ses propres sentiments et l'habitude de les cacher aux autres fait que bientôt on se les dissimule à soi-même. Malheur aux peuples qui sont arrivés à ce point funeste. Égarés, sans guide et sans principe stable, ils flottent à l'aventure sur la vaste mer de l'incertitude, uniquement occupés d'échapper aux monstres qui les menacent. Un avenir entouré de mille dangers empoisonne pour eux les moments présents. Les plaisirs durables de la tranquillité et de la sécurité leur sont inconnus. S'ils ont joui à la hâte et dans le trouble de quelques instants de bonheur, répandus çà et là sur le triste cours de leur malheureuse vie, ces moments si rares et si tôt passés suffisent-ils pour les consoler d'avoir vécu? Est-ce parmi de tels hommes que nous aurons d'intrépides soldats, défenseurs de la patrie et du trône? Y trouverons-nous des magistrats incorruptibles qui sachent soutenir et développer les véritables intérêts du souverain avec une éloquence libre et patriotique, qui déposent en même temps aux pieds du monarque les tributs et les bénédictions de tous les citoyens, qui rapportent dans le palais des grands et sous l'humble toit du pauvre la sécurité, la paix, l'assurance, et qui donnent au travail et à l'industrie l'espérance d'un sort toujours plus doux. C'est surtout ce dernier sentiment qui ranime les États et leur donne une vie nouvelle. Qui pourra se défendre de la calomnie lorsqu'elle est armée du bouclier le plus sûr de la tyrannie, le secret? Quel misérable gouvernement que celui où le souverain soupçonne un ennemi dans chacun de ses sujets et se trouve forcé, pour assurer le repos public, de troubler celui de chaque citoyen. Quels sont donc les motifs sur lesquels on s'appuie pour justifier les accusations et les peines secrètes, la tranquillité publique, la sûreté et le maintien de la forme du gouvernement? Il faut avouer que c'est une étrange constitution que celle où le gouvernement, qui a pour lui la force et l'opinion plus puissante que la force, semble cependant redouter chaque citoyen. Craint-on que l'accusateur ne soit pas en sûreté? Les lois sont donc insuffisantes pour le défendre, et les sujets plus puissants que le souverain et les lois. Voudrait-on sauver le délateur de l'infamie où il s'expose? Ce serait avouer que l'on autorise les calomnies secrètes, mais que l'on punit les calomnies publiques. S'appuierait-on sur la nature du délit? Si le gouvernement est assez malheureux pour regarder comme des crimes certaines actions indifférentes ou même utiles au public, il a raison. Les accusations et les jugements ne saurait jamais être assez secret. Mais peut-il y avoir un délit, c'est-à-dire une offense faite à la société, qu'il ne soit pas de l'intérêt de tous de punir publiquement? Je respecte tous les gouvernements, je ne parle d'aucun en particulier, et je sais qu'il y a des circonstances où les abus semblent tellement inhérents à la constitution d'un État qu'il ne paraît pas possible de les déraciner sans détruire le corps politique. Mais si j'avais à dicter de nouvelles lois dans quelque coin isolé de l'univers, ma main tremblante se refuserait à autoriser les accusations secrètes. Je croirais voir toute la postérité me reprocher les maux affreux qu'elles entraînent. Montesquieu l'a déjà dit. Les accusations publiques sont conformes à l'esprit du gouvernement républicain, où le zèle du bien général doit être la première passion des citoyens. Dans les monarchies où l'amour de la patrie est très faible, par la nature même du gouvernement, c'est un établissement sage que ces magistrats chargés de mettre en accusation au nom du public les infracteurs des lois. Mais tout gouvernement, républicain ou monarchique, doit infliger au calomniateur la peine que l'accusé subit s'il eût été coupable. Chapitre 10. Des interrogations suggestives. Nos lois interdisent les interrogations suggestives, c'est-à-dire celles qui portent sur le fait même du délit, parce que, selon nos jurisconsultes, on ne doit interroger que sur la manière dont le crime a été commis et sur les circonstances qui l'ont accompagné. Mais un juge ne peut se permettre les questions directes qui suggéreraient à l'accusé une réponse immédiate. Le juge qui interroge, disent les criminalistes, ne doit aller au fait qu'indirectement et jamais en droite ligne. Si l'on a établi cette méthode pour éviter de suggérer au coupable une réponse qui le sauve, ou parce qu'on a regardé comme une chose monstrueuse et contre la nature qu'un homme s'accuse lui-même, quel que soit le but que l'on s'est proposé en interdisant les interrogations suggestives, on a fait tomber les lois dans une contradiction bien remarquable, puisque, en même temps, on a autorisé la torture. Est-il, en effet, une interrogation plus suggestive que la douleur? Le scélérat robuste, qui peut éviter une peine longue et rigoureuse, en souffrant avec force des tourments d'un instant, garde un silence obstiné et se voit absous. Mais la question arrache à l'homme faible un aveu par lequel il se délivre de la douleur présente qui l'affecte plus fortement que tous les maux à venir. Et si une interrogation spéciale est contraire à la nature en obligeant le coupable à s'accuser lui-même, n'y sera-t-il pas plus violemment contraint par les tourments et les convulsions de la douleur? Mais les hommes s'occupent bien plus, dans leurs règles de conduite, de la différence des mots que de celle des choses. Observons, en finissant, que celui qui s'obstinerait à ne pas répondre dans l'interrogatoire qu'on lui fait subir mérite de subir une peine qui doit être fixée par les lois. Il faut que cette peine soit très grave, car le silence d'un criminel devant le juge qui l'interroge est pour la société un scandale et pour la justice une offense qu'il faut prévenir autant que possible. Mais cette peine particulière n'est plus nécessaire lorsque le crime est déjà constaté et le criminel convaincu, puisque alors l'interrogatoire devient inutile. Pareillement, les aveux de l'accusé ne sont pas nécessaires lorsque les preuves suffisantes ont démontré qu'il est évidemment coupable du crime dont il s'agit. Ce dernier cas est le plus ordinaire, et l'expérience montre que dans la plupart des procédures criminelles, les coupables nient tout. Supplément au chapitre 10, l'accusé devant ses juges. Le moment critique est arrivé où l'accusé va paraître aux yeux de ses juges. Je me hâte de le demander. Quel est l'accueil que vous lui destinez? Le recevrez-vous en magistrat ou bien en ennemi? Prétendez-vous l'épouvanter ou vous instruire? Que deviendra cet homme enlevé subitement à son cachot, ébloui du jour qu'il revoit, et transporté tout à coup au milieu des hommes qui vont traiter de sa mort? Déjà tremblant, il lève à peine un œil incertain sur les arbitres de son sort, et leur sombre regard épouvante et repousse les siens. Il croit lire d'avance son arrêt sur les replis sinistres de leur front. Ses sens, déjà troublés, sont frappés par des voix rudes et menaçantes. Le peu de raison qui lui reste achève de le confondre. Ses idées s'effacent. Sa faible voix pousse à peine une parole hésitante. Et, pour comble de maux, ses juges impute peut-être au trouble du crime un désordre que produit la terreur seule de leur aspect. Quoi ? Vous vous méprenez sur la consternation de cet accusé ? Vous, qui n'oseriez peut-être parler avec assurance devant quelques hommes assemblés ? Éclaircissez ce front sévère. Laissez lire dans vos regards cette tendre inquiétude pour un homme qu'on désire trouver innocent. Que votre voix, douce dans sa gravité, semble ouvrir avec votre bouche un passage à votre cœur. Contraignez cette horreur secrète que vous inspire la vue de ses fers et les dehors affreux de la misère. Gardez-vous de confondre ces signes équivoques du crime avec le crime même. Et songez que ces tristes apparences cachent peut-être un homme vertueux. Quel objet ! Levez les yeux et voyez sur vos têtes l'image de votre Dieu, qui fut un innocent accusé. Vous êtes homme, soyez humain. Vous êtes juge, soyez modéré. Vous êtes chrétien, soyez charitable. Homme, juge, chrétien, qui que vous soyez, respectez le malheur. Soyez doux et compatissant pour un homme qui se repent et qui peut-être n'a point à se repentir. Mais laissons la contenance du juge pour parler d'un art dangereux dont j'ai souvent entendu vanter l'utilité. C'est celui d'égarer l'accusé par des interrogations captieuses, même par des suppositions fausses, et d'employer enfin l'artifice et le mensonge à découvrir la vérité. Cet art n'est pas bien difficile. On trouble la tête d'un malheureux accusé par 100 questions disparates. On affecte de ne pas suivre l'ordre des faits. On lui éblouit la vue en le faisant tourner avec rapidité autour d'une foule de différents objets. Et, l'arrêtant tout à coup, on lui suppose un aveu qu'il n'a pas fait. On lui dit « Voilà ce que tu viens de confesser. Tu te contredis, tu mens et tu es perdu. » Quel méprisable artifice et quel est son effet? L'accusé reste interdit. Les paroles de son juge tombent sur sa tête comme un foudre imprévu. Il est étonné de se voir trahi par lui-même. Il perd la mémoire et la raison. Les faits se brouillent et se confondent. Et souvent, une contradiction supposée le fait tomber dans une contradiction réelle. Cet art est odieux autant qu'injuste. N'en souillons point nos honorables fonctions. N'ayons d'autre art que la simplicité. Allons au vrai par le vrai. Suivons un accusé dans tous les faits, mais pas à pas et sans le presser. Observons sa marche, mais sans l'égarer. Et s'il tombe, que ce soit sous l'effort de la vérité et non pas sous nos pièges. Ici, un spectacle effrayant se présente tout à coup à mes yeux. Le juge se lasse d'interroger par la parole. Il veut interroger par les supplices. Impatient dans ses recherches et peut-être irrité de leur inutilité. On apporte des torches, des chaînes, des leviers et tous ces instruments inventés pour la douleur. Un bourreau vient se mêler aux fonctions de la magistrature et termine, par la violence, un interrogatoire commencé par la liberté. Et nous reprochons aux anciens leurs cirques et leurs gladiateurs. Servant, discours sur l'administration de la justice criminelle. Chapitre 11. Des serments. C'est encore une contradiction entre les lois et les sentiments naturels que d'exiger d'un accusé le serment de dire la vérité lorsqu'il a le plus grand intérêt à la taire. Comme si l'homme pouvait jurer de bonne foi qu'il va contribuer à sa propre destruction. Comme si, le plus souvent, la voix de l'intérêt n'étouffait pas dans le cœur humain celle de la religion. L'histoire de tous les siècles prouve que ce don sacré du ciel est la chose dont on abuse le plus. Et comment les scélérats la respecteront-ils si elle est tous les jours outragée par les hommes que l'on regarde comme les plus sages et les plus vertueux? Les motifs que la religion oppose à la crainte des tourments et à l'amour de la vie sont presque toujours trop faibles parce qu'il ne frappe pas les sens. Les choses du ciel sont soumises à des lois toutes différentes de celles de la terre. Pourquoi compromettre ces lois les unes avec les autres? Pourquoi placer l'homme dans l'affreuse alternative d'offenser Dieu ou de se perdre lui-même? C'est ne laisser à l'accusé que le choix d'être mauvais chrétien ou martyr du serment. On détruit ainsi toute la force des sentiments religieux, unique soutien de l'honnêteté dans le cœur de la plupart des hommes. Et peu à peu, les serments ne sont plus qu'une simple formalité sans conséquence. Que l'on consulte l'expérience, on reconnaîtra que les serments sont inutiles puisqu'il n'y a point de juge qui ne convienne que jamais le serment n'a fait dire la vérité à un coupable. La raison fait voir que cela doit être ainsi, parce que toutes les lois opposées aux sentiments naturels de l'homme sont vaines et conséquemment funestes. De telles lois peuvent être comparées à une digue que l'on élèverait directement au milieu des eaux d'un fleuve pour en arrêter le cours, où la digue est renversée sur le champ par le torrent qui l'emporte. Ou bien, il se forme au-dessus d'elle un gouffre qui la mine et la détruit insensiblement. Chapitre 12. De la question aux tortures. C'est une barbarie consacrée par l'usage dans la plupart des gouvernements, que de donner la torture à un coupable pendant que l'on poursuit son procès, soit pour tirer de lui l'aveu d'un crime, soit pour éclaircir les contradictions où il est tombé, soit pour découvrir ses complices ou d'autres crimes dont il n'est pas accusé, mais dont il pourrait être coupable, soit enfin parce que des sophistes incompréhensibles ont prétendu que la torture purgeait l'infamie. Un homme ne peut être considéré comme coupable avant la sentence du juge, et la société ne peut lui retirer la protection publique qu'après qu'il est convaincu d'avoir violé les conditions auxquelles elles lui avaient été accordées. Le droit de la force peut donc seul autoriser un juge à infliger une peine à un citoyen lorsqu'on doute encore s'il est innocent ou coupable. Voici une proposition bien simple. Où le délit est certain, où il est incertain. S'il est certain, il ne doit être puni que de la peine fixée par la loi, et la torture est inutile, puisqu'on n'a plus besoin des avus du coupable. Si le délit est incertain, n'est-il pas affreux de tourmenter un innocent? Car, devant les lois, celui-là est innocent dont le délit n'est pas prouvé. Quel est le but politique des châtiments? La terreur qu'ils impriment dans les cœurs portés au crime. Mais que doit-on penser des tortures, de ces supplices secrets que la tyrannie emploie dans l'obscurité des cachots et qui sont réservés à l'innocent comme au coupable? Il est important qu'aucun délit connu ne demeure impuni. Mais il n'est pas toujours utile de découvrir l'auteur d'un délit enseveli dans les ténèbres de l'incertitude. Un crime déjà commis, auquel il n'y a plus de remède, ne peut être puni par la société politique que pour empêcher les autres hommes d'en commettre de semblables par l'espérance de l'impunité. S'il est vrai que la plupart des hommes respectent les lois par crainte ou par vertu, s'il est probable qu'un citoyen les aura plutôt suivis que violés, un juge, en ordonnant la torture, s'expose continuellement à tourmenter un innocent. Je dirais encore qu'il est monstrueux et absurde d'exiger qu'un homme soit lui-même son accusateur, de chercher à faire naître la vérité par les tourments, comme si cette vérité résidait dans les muscles et dans les fibres du malheureux. La loi qui autorise la torture est une loi qui dit « Homme, résistez à la douleur. La nature vous a donné un amour invincible de votre être et le droit inaliénable de vous défendre. Mais je veux créer en vous un sentiment tout contraire. Je veux vous inspirer une haine héroïque de vous-même. Je vous ordonne de devenir vos propres accusateurs, de dire enfin la vérité au milieu des tortures qui briseront vos os et déchireront vos muscles. » Cet infâme moyen de découvrir la vérité est un monument de la barbare législation de nos pères qui honorait du nom de jugement de Dieu les épreuves du feu, celles de l'eau bouillante et le sort incertain des combats. Il s'imaginait dans un orgueil stupide que Dieu, sans cesse occupé des querelles humaines, interrompait à chaque instant le cours éternel de la nature pour juger des procès absurdes ou frivoles. La seule différence qu'il y ait entre la torture et les épreuves du feu, c'est que la torture ne prouve le crime que si l'accusé veut avouer, au lieu que les épreuves brûlantes laissaient une marque extérieure que l'on regardait comme la preuve du crime. Mais cette différence est plus apparente que réelle. L'accusé est aussi peu le maître de ne pas avouer ce qu'on exige de lui au milieu des tourments qu'il était autrefois d'empêcher sans fraude les effets du feu et de l'eau bouillante. Tous les actes de notre volonté sont proportionnés à la force des impressions sensibles qu'ils causent, et la sensibilité de tout homme est bornée. Or, si l'impression de la douleur devient assez forte pour occuper toute la puissance de l'âme, elle ne laisse à celui qui souffre aucune autre activité à exercer que de prendre au moment même la voie la plus courte pour éloigner les tourments actuels. Ainsi, l'accusé ne peut pas plus éviter de répondre qu'il ne pourrait échapper aux impressions du feu et de l'eau. Ainsi, l'innocent s'écriera qu'il est coupable pour faire cesser des tortures qu'il ne peut plus supporter. Et le même moyen, employé pour distinguer l'innocent et le criminel, fera évanouir toute différence entre eux. La torture est souvent un moyen sûr de condamner l'innocent faible et d'absoudre le scélérat robuste. C'est là ordinairement le résultat terrible de cette barbarie que l'on croit capable de produire la vérité, de cet usage digne des cannibales, et que les Romains, malgré la dureté de leurs mœurs, réservaient pour les seuls esclaves, pour ces malheureuses victimes d'un peuple dont on a trop vanté la féroce vertu. De deux hommes également innocents ou également coupables, celui qui se trouvera le plus courageux et le plus robuste sera absous. Mais le plus faible sera condamné en vertu de ce raisonnement. Moi, juge, il faut que je trouve un coupable. Toi, qui es vigoureux, tu as su résister à la douleur, et pour cela je t'absous. Toi, qui es plus faible, tu as cédé à la force des tourments. Ainsi je te condamne. Je sens bien qu'un aveu arraché par la violence de la torture n'a aucune valeur. Mais si tu ne confirmes à présent ce que tu as confessé, je te ferai tourmenter de nouveau. Le résultat de la question est donc une affaire de tempérament et de calcul, qui varie dans chaque homme en proportion de sa force et de sa sensibilité. De sorte que, pour prévoir le résultat de la torture, il ne faudrait que résoudre le problème suivant, plus digne d'un mathématicien que d'un juge. La force des muscles et la sensibilité des fibres d'un accusé étant connues, trouver le degré de douleur qui l'obligera de s'avouer coupable d'un crime donné. On interroge un accusé pour connaître la vérité. Mais si on la démêle si difficilement dans l'air, le geste et la physionomie d'un homme tranquille, comment la découvrira-t-on dans des traits décomposés par les convulsions de la douleur, lorsque tous les signes qui trahissent quelquefois la vérité sur le front des coupables, seront altérés et confondus. Toute action violente fait disparaître les petites différences des mouvements par lesquels on distingue quelquefois la vérité du mensonge. Il résulte encore de l'usage des tortures une conséquence bien remarquable. C'est que l'innocent se trouve dans une position pire que celle du coupable. En effet, l'innocent que l'on applique à la question a tout contre lui, car il est condamné s'il avoue le crime qu'il n'a pas commis. Ou bien il sera absous, mais après avoir souffert des tourments qu'il n'a point mérité de souffrir. Le coupable, au contraire, a pour lui une combinaison favorable, puisqu'il est absous s'il supporte la torture avec fermeté et qu'il évite les supplices dont il est menacé en subissant une peine bien plus légère. Ainsi, l'innocent a tout à perdre, le coupable ne peut que gagner. Les vérités ont enfin été senties, quoique confusément, par les législateurs eux-mêmes. Mais ils n'ont pas pour cela supprimé la torture. Seulement, ils conviennent que les aveux de l'accusé dans les tourments sont nuls, s'il ne les confirme ensuite par serment. Mais s'il refuse de les confirmer, il est torturé de nouveau. Chez quelques nations, et selon certains jurisconsultes, ces odieuses violences ne sont permises que jusqu'à 3 fois. Mais dans d'autres pays et selon d'autres docteurs, le droit de torturer est entièrement abandonné à la discrétion du juge. Il est inutile d'appuyer ses réflexions par les exemples sans nombre des innocents qui se sont avoués coupables au milieu des tortures. Il n'y a point de peuple, point de siècle, qui ne puisse citer les siens. Les hommes sont toujours les mêmes. Ils voient les choses présentes sans s'occuper des suites qu'elles peuvent avoir. Il n'y a point d'homme, s'il a quelquefois élevé ses idées au-delà des premiers soins de la vie, qui n'ait entendu la voix intérieure de la nature le rappeler à elle, et qui ne se soit vu tenté de se rejeter dans ses bras. Mais l'usage, ce tyran des âmes vulgaires, le comprime et le retient dans ses erreurs. Le second motif pour lequel on applique à la question un homme que l'on suppose coupable est l'espérance d'éclaircir les contradictions où il est tombé dans les interrogatoires qu'on lui a fait subir. Mais la crainte du supplice, l'incertitude du jugement qui va être prononcé, la solennité des procédures, la majesté du juge, l'ignorance même, également commune à la plupart des accusés innocents ou coupables, sont autant de raisons pour faire tomber en contradiction et l'innocence qui tremble et le crime qui cherche à se cacher. Pourrait-on croire que les contradictions si ordinaires à l'homme, lors même qu'il a l'esprit tranquille, ne se multiplieront pas dans ces moments de trouble où la pensée de se tirer d'un danger imminent absorbe l'âme tout entière. En troisième lieu, donner la torture à un malheureux pour découvrir s'il est coupable d'autres crimes que celui dont on l'accuse, c'est lui faire cet odieux raisonnement. Tu es coupable d'un délit, donc il est possible que tu en aies commis cent autres. Ce soupçon me pèse. Je veux m'en éclaircir. Je vais employer mon épreuve de vérité. Les lois te feront souffrir pour les crimes que tu as commis, pour ceux que tu as pu commettre, et pour ceux dont je veux te trouver coupable. On donne aussi la question à un accusé pour découvrir ses complices. Mais s'il est prouvé que la torture n'est rien moins qu'un surmoyen de découvrir la vérité, comment fera-t-elle connaître les complices, puisque cette connaissance est une des vérités que l'on cherche? Il est certain que celui qui s'accuse lui-même accusera les autres plus facilement encore. D'ailleurs, est-il juste de tourmenter un homme pour les crimes d'un autre homme? Ne peut-on pas découvrir les complices par les interrogatoires de l'accusé et des témoins, par l'examen des preuves et du corps de délit, enfin, par tous les moyens employés pour constater le délit? Les complices fuient presque toujours, et aussitôt que leur compagnon est arrêté. La seule incertitude du sort qui les attend les condamne à l'exil et délivre la société de nouveaux attentats qu'elle pourrait craindre d'eux. Tandis que le supplice du coupable qu'elle a entre les mains effraie les autres hommes et les détourne du crime, ce qui est l'unique but des châtiments. La prétendue nécessité de purger l'infamie est encore un des absurdes motifs de l'usage des tortures. Un homme déclaré infâme par les lois devient-il pur parce qu'il avoue son crime tandis qu'on lui brise les os? La douleur qui est une sensation peut-elle détruire l'infamie qui est une combinaison morale? La torture est-elle un creuset et l'infamie un corps mixte qui vienne y déposer tout ce qu'elle a d'impur? En vérité, des abus aussi ridicules ne devrait pas être souffert au XVIIIe siècle. L'infamie n'est point un sentiment sujet aux lois ou réglé par la raison. Elle est l'ouvrage de l'opinion seule. Or, comme la torture rend infâme celui qui l'endure, il est absurde qu'on veuille ainsi laver l'infamie par l'infamie même. Il n'est pas difficile de remonter à l'origine de cette loi bizarre, parce que les absurdités adoptées par une nation entière tiennent toujours à d'autres idées établies et respectées chez cette même nation. L'usage de purger l'infamie par la torture semble avoir sa source dans les pratiques de la religion qui ont tant d'influence sur les esprits des hommes de tous les pays et de tous les temps. La foi nous enseigne que les souillures contractées par la faiblesse humaine, quand elles n'ont pas mérité la colère éternelle de l'être suprême, sont purifiées dans un autre monde par un feu incompréhensible. Or, l'infamie est une tâche civile, et puisque la douleur et le feu du purgatoire effacent les tâches spirituelles, pourquoi les tourments de la question n'emporteraient-ils pas la tâche civile de l'infamie? Je crois qu'on peut donner une origine à peu près semblable à l'usage qu'observent certains tribunaux d'exiger les aveux du coupable comme essentiel pour sa condamnation. Cet usage paraît tiré du mystérieux tribunal de la pénitence, où la confession des péchés est une partie nécessaire des sacrements. C'est ainsi que les hommes abusent des lumières de la révélation. Et comme ces lumières sont les seules qui éclairent les siècles d'ignorance, c'est à elles que la docile humanité a recours dans toutes les occasions, mais pour en faire les applications les plus fausses et les plus malheureuses. La solidité des principes que nous avons exposés dans ce chapitre était connue des législateurs romains qui ne soumirent à la torture que les seuls esclaves, espèces d'hommes qui n'avaient aucun droit, aucune part dans les avantages de la société civile. Ces principes ont été adoptés en Angleterre par cette nation qui prouve l'excellence de ses lois par ses progrès dans les sciences, la supériorité de son commerce, l'étendue de ses richesses, sa puissance, et par de fréquents exemples de courage et de vertu politique. La Suède, pareillement convaincue de l'injustice de la torture, n'en permet plus l'usage. Cette infâme coutume a été abolie par l'un des plus sages monarques de l'Europe, qui a porté la philosophie sur le trône, et qui, législateur bienfaisant, ami de ses sujets, les a rendus égaux et libres sous la dépendance des lois, seule liberté que des hommes raisonnables puissent attendre de la société, seule égalité qu'elle puisse admettre. Enfin, les lois militaires n'ont point admis la torture, et si elle pouvait avoir lieu quelque part, ce serait sans doute dans les armées, composées en grande partie de la Ligue des Nations. Chose étonnante, pour qui n'a pas réfléchi sur la tyrannie de l'usage? Ce sont des hommes endurcis au meurtre et familiarisés avec le sang qui donnent aux législateurs d'un peuple en paix l'exemple de juger les hommes avec plus d'humanité. Supplément au chapitre 12, du secret, etc. Ce titre nous reporte à un autre siècle, et c'est au 19e que je l'écris. La jurisprudence criminelle distinguait jadis deux sortes de questions. L'une, appelée préparatoire, lorsqu'il n'existait pas de preuves suffisantes contre un accusé prévenu d'un crime digne de mort. Cette espèce de question fut abolie par la déclaration du 24 août 1780. La seconde, appelée préalable, s'appliquait après le jugement de mort et avant l'exécution, afin d'obtenir la révélation des complices. Celle-ci fut conservée et n'a été abolie que par la loi du 9 octobre 1789. Une nation qui refaisait ses institutions ne pouvait en laisser subsister une aussi barbare. Je pourrais expliquer les tourments qu'on faisait subir, mais, avec Montesquieu, j'entends la voix de la nature qui crie contre moi. Ne parlons donc pas de ce qui n'est plus. C'est assez d'avoir à nous occuper de ce qui est. La question est abolie. Voilà ce que proclame notre législation. Cependant, le besoin d'obtenir des aveux dans certaines causes a fait imaginer un nouveau genre de torture auquel le plus ferme courage ne peut résister longtemps. Je veux parler du secret, et je ne crains pas de prendre sur moi toute la responsabilité des faits que je vais rapporter. Je me borne à consigner ici les actes qui ont acquis le plus de publicité. Voici les moyens qui, à certaines époques, ont été employés dans quelques maisons de justice ou d'arrêt pour forcer les détenus à faire des révélations. L'homme soumis à ce genre de torture est ordinairement jeté dans un cachot étroit, qui le plus souvent est humide, pavé en pierre, et dont l'air ne se renouvelle qu'avec une extrême difficulté. Ce cachot ne reçoit un faible rayon de lumière qu'au moyen d'un soufflet de bois adapté à une fenêtre grillée. On y place pour tout meuble un méchant garde-paille, on n'y trouve nulle table, nulle chaise, en sorte que le prisonnier est obligé d'être constamment ou couché ou debout. On ne lui permet la lecture d'aucun livre. La faible consolation d'écrire ses pensées lui est même refusée. Seul avec ses sombres réflexions, et le plus souvent au milieu d'une obscurité profonde, il ne trouve rien qui puisse le distraire de ses anxiétés. Un baquet, placé auprès de lui, sert au soulagement des besoins de la nature et contribue par l'odeur infecte qu'il exhale à rendre ce séjour insupportable. À toutes les heures du jour et de la nuit, on est réveillé par la bruyante vigilance d'un guichetier qui, privé de toute sensibilité, ne respecte ni repos ni douleur, agite avec fracas ses clés et ses verrous et semble prendre plaisir à venir contempler vos souffrances. Du pain, souvent en petite quantité, est toute la nourriture de ce malheureux. Et il n'est pas rare que, dans certaines occasions, on oublie à dessein de la lui donner, afin de diminuer ses forces. On ne lui laisse ni couteau, ni instrument quelconque, et c'est le guichetier qui prend le soin de diviser ses aliments. De temps en temps, on lui sort de cet horrible lieu pour le conduire devant un juge interrogateur. Mais ses souvenirs sont confus, il se soutient à peine. Et après plusieurs interrogatoires, c'est un miracle si l'incohérence de ses réponses ne forme pas des contradictions dont on fait ensuite contre lui autant de nouveaux chefs d'accusation. Rentré dans la prison, et s'il n'a pas rempli l'attente du juge, le concierge a ordre de redoubler de rigueur. Ainsi, quelquefois, lorsque l'horreur de la solitude n'a rien pu sur une âme fortement trempée, on substitue à ce traitement un autre genre de supplice. Une lumière éblouissante d'un réverbère remplace l'obscurité. La lueur est tournée sur le grabat du prisonnier, lequel, pour éviter son éclat incommode, est obligé de tenir ses yeux affaiblis, constamment fermés. Pendant ce temps, un agent de police placé à l'autre extrémité du cachot et assis devant une table l'observe en silence. Il épie ses mouvements. Il ne laisse échapper aucun de ses soupirs sans en prendre note. Il recueille les paroles et les plaintes que la douleur lui arrache. Il lui ôte la dernière consolation qu'on ne peut refuser à un infortuné, celle de gémir seul. Heureux le prisonnier, si ses agents mercenaires qui se succèdent pour le surveiller ne mentent jamais à leur conscience et à la vérité. Le temps pendant lequel on est soumis à ce régime n'a point de mesure. Il est à l'arbitraire du magistrat. Tel y a été laissé 552 jours, tel autre 372, tel autre 101. Après ce traitement, ce n'est plus un homme qu'on rend à la lumière. C'est un spectre, c'est un cadavre qui a souvent perdu jusqu'à la sensation de la douleur. Voilà par quelle torture nous avons remplacé la question préparatoire d'autrefois. Enfin, lorsqu'un accusé est condamné à la peine capitale, si on espère en obtenir quelques révélations, on le soumet à de nouveaux tourments qui doivent toujours produire leur effet puisqu'ils sont exercés sur un corps qui n'a presque plus de vie. Et c'est encore ainsi que nous avons remplacé l'ancienne question préalable. Béranger, de la justice criminelle en France, etc., titre 2, chapitre 1er. Chapitre 13. De la durée des procédures et de la prescription. Lorsque le délit est constaté et les preuves certaines, il est juste d'accorder à l'accusé le temps et les moyens de se justifier s'il le peut. Mais il faut que ce temps soit assez court pour ne pas retarder trop le châtiment qui doit suivre de près le crime si l'on veut qu'il soit un frein utile contre les scélérats. Un amour mal entendu de l'humanité pourra blâmer d'abord cette promptitude, mais elle sera approuvée par ceux qui auront réfléchi sur les dangers multipliés que les extrêmes lenteurs de la législation font courir à l'innocence. Il n'appartient qu'aux lois de fixer l'espace de temps que l'on doit employer à la recherche des preuves du délit et celui qu'on doit accorder à l'accusé pour sa défense. Si le juge avait ce droit, il ferait les fonctions du législateur. Lorsqu'il s'agit de ces crimes atroces dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s'ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s'est soustrait au châtiment par la fuite. Mais il n'en est pas ainsi des délits ignorés et peu considérables. Il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans craindre de nouveaux châtiments. En effet, l'obscurité qui a enveloppé longtemps le délit diminue de beaucoup la nécessité de l'exemple et permet de rendre au citoyen son état et ses droits avec le pouvoir de devenir meilleur. Je ne puis indiquer ici que des principes généraux. Pour en faire l'application précise, il faut avoir égard à la législation existante, aux usages du pays, aux circonstances. J'ajouterai seulement que chez un peuple qui aurait reconnu les avantages des peines modérées, si les lois abrégeaient ou prolongeaient la durée des procédures et le temps de la prescription selon la grandeur du délit, si l'emprisonnement provisoire et l'exil volontaire étaient comptés pour une partie de la peine encourue par le coupable, on parviendrait à établir par là une juste progression de châtiments doux pour un grand nombre de délits. Mais le temps qu'on emploie à la recherche des preuves, et celui qui fixe la prescription ne doivent pas être prolongés en raison de la grandeur du crime que l'on poursuit. Parce que, tant qu'un crime n'est pas prouvé, plus il est atroce, moins il est vraisemblable. Il faudra donc, quelquefois, abréger le temps des procédures et augmenter celui qu'on exige pour la prescription. Ce principe paraît d'abord contradictoire avec celui que j'ai établi plus haut, qu'on peut décerner des peines égales pour des crimes différents, en considérant comme partie du châtiment l'exil volontaire ou l'emprisonnement qui a précédé la sentence. Je vais tâcher de m'expliquer plus clairement. On peut distinguer deux classes de délits. La première est celle des crimes atroces, qui commence à l'homicide et comprend, au-delà, toute la progression des plus horribles forfaits. Nous rangerons dans la seconde classe les délits moins affreux que le meurtre. Cette distinction est puisée dans la nature. La sûreté des personnes est un droit naturel. La sûreté des biens est un droit de société. Il y a bien peu de motifs qui puissent pousser l'homme à étouffer dans son cœur le sentiment naturel de la compassion qui le détourne du meurtre. Mais comme chacun est avide de chercher son bien-être, comme le droit de propriété n'est pas gravé dans les cœurs et qu'il n'est que l'ouvrage des conventions sociales, il y a une foule de motifs qui portent les hommes à violer ces conventions. Si l'on veut établir des règles de probabilité pour ces deux classes de délits, il faut les poser sur des bases différentes. Dans les grands crimes, par la raison même qu'ils sont plus rares, on doit diminuer la durée de l'instruction et de la procédure, parce que l'innocence dans l'accusé est plus probable que le crime. Mais on doit prolonger le temps de la prescription. Par ce moyen qui accélère la sentence définitive, on ôte aux méchants l'espérance d'une impunité d'autant plus dangereuse que les forfaits sont plus grands. Au contraire, dans les délits moins considérables et plus communs, il faut prolonger le temps des procédures, parce que l'innocence de l'accusé est moins probable, et diminuer le temps fixé pour la prescription, parce que l'impunité est moins dangereuse. Il faut aussi remarquer que, si l'on y prend garde, cette différence de procédure entre les deux classes de délits peut donner aux criminels l'espoir de l'impunité. Espoir d'autant plus fondé que son forfait sera plus atroce et conséquemment moins vraisemblable. Mais observons qu'un accusé renvoyé faute de preuves n'est ni absous ni condamné, qu'il peut être arrêté de nouveau pour le même crime et soumis à un nouvel examen si l'on découvre de nouveaux indices de son délit avant la fin du temps fixé pour la prescription selon le crime qu'il a commis. Tel est, du moins, à mon avis, le tempérament qu'on pourrait prendre pour assurer à la fois la sûreté des citoyens et leur liberté, sans favoriser l'une aux dépens de l'autre. Ces deux biens sont également le patrimoine inaliénable de tous les citoyens. Et l'un et l'autre sont entourés de périls lorsque la sûreté individuelle est abandonnée à la merci d'un despote et lorsque la liberté est protégée par l'anarchie tumultueuse. Il se commet dans la société certains crimes, en même temps assez communs, est difficile à constater. Dès lors, puisqu'il est presque impossible de prouver ses crimes, l'innocence est probable devant la loi. Et, comme l'espérance de l'impunité contribue peu à multiplier ces sortes de délits, qui ont tous des causes différentes, l'impunité est rarement dangereuse. On peut donc ici diminuer également le temps des procédures et celui de la prescription. Mais selon les principes reçus, c'est principalement pour les crimes difficiles à prouver, comme l'adultère, la pédérastie, qu'on admet arbitrairement les présomptions, les conjectures, les demi-preuves, comme si un homme pouvait être demi-innocent ou demi-coupable et mériter d'être demi-absous ou demi-puni. C'est surtout dans ce genre de délit que l'on exerce les cruautés de la torture sur l'accusé, sur les témoins, sur la famille entière du malheureux qu'on soupçonne. D'après les odieuses leçons de quelques criminalistes qui ont écrit, avec une froide barbarie, des compilations d'iniquités qu'on ose donner pour règle aux magistrats et pour loi aux nations. Lorsqu'on réfléchit sur toutes ces choses, on est forcé de reconnaître avec douleur que la raison n'a presque jamais été consultée dans les lois que l'on a données au peuple. Les forfaits les plus atroces, les délits les plus obscurs et les plus chimériques, par conséquent les plus invraisemblables, sont précisément ceux que l'on a regardés comme constatés sur de simples conjectures, et sur les indices les moins solides et les plus équivoques. Il semblerait que les lois et le magistrat n'ont intérêt qu'à trouver un délit et non à chercher la vérité, et que le législateur n'a pas vu qu'il s'expose sans cesse au risque de condamner un innocent en prononçant sur des crimes invraisemblables ou mal prouvés.